Bon midi, Québec. Bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101, celle qui suit toujours le point de max de 10h à midi qui précède le retour de Gravel avec Denis, Véro et Audrey. Vous avez entendu Audrey dans l'open mic. Vous allez l'entendre à nouveau dans le retour de Gravel. Elle est toute heureuse et de retour de voyage. La vie est belle pour Audrey Pinchot. Puis elle mérite d'avoir une belle vie. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal?
Ben absolument. L'énergie après vacances, hein?
Oh, oui, toujours. Fait du bien. Exactement, toujours cette belle énergie. 418-971-1021 pour interagir avec nous. On sait que vous aimez le faire et on aime vous lire. On aime interagir avec vous. Donc, n'hésitez jamais à nous texter, évidemment, dans des endroits sécuritaires. Textez pas au volant, là. Ouais. Surtout pas. Faites-vous pas attraper par la police. Hey, penses-tu que les policiers vont avoir à un moment donné des jumelles, là, tu sais, comme celles pour les foyers, là? Ils vont dire « Ah! » Ils vont regarder à travers ta portière de véhicule, puis ils vont dire « Ah! Ah! » T'es en train de taper sur son cellulaire.
Écoute, si ça arrive, on va être rendu dans de technologies super avancées que j'espère qu'on utilisera d'autres essais pour commencer.
Parce que, entièrement là, raison.
On a du crime organisé partout. Ouais. On a des jeunes qui se font enrôler dans bien des affaires criminelles.
On vend de la coke sur le web à cette heure.
Exactement.
Au vu et au su de tout le monde, il n'y en a pas de problème.
Donc, je conçois et je suis d'accord avec le fait que le cellulaire au volant soit criminel là, au niveau des routes. Cependant, ça ne me dérangerait vraiment pas que ça soit la priorité 8
Le moment. Ben, les policiers sont pas obligés de mettre ça en priorité 1. En effet, blvd.fm, ça inclut notre web radio, mais surtout les meilleurs moments qui se retrouvent là. Le pit stop, d'ailleurs, qu'on va vivre dans quelques minutes avec Victor Henriquez, va s'y retrouver à la fin de l'émission. Je vous rappelle l'application blvd102.1 sur les haut-parleurs intelligents. Vous dites « Écoutez BLVD ». twitch.tv/blvd/fm. Une affaire que j'oublie tout le temps de faire, parce qu'elle s'est la chaîne YouTube. Allez vous abonner. Il y a plein de d'émissions intéressantes, de parties d'émissions, mais surtout des podcasts. Et les podcasts des grands événements avec Denis Gravel s'y retrouvent. C'est une série de 5 podcasts tellement intéressants, notamment les deux là, sur la tuerie à la mosquée de Québec, dont celui avec Taeb Moala, qui est très, très, très intéressant. Pascal, Victor est au bout du Zoom, je vais le dire comme ça. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Puis il y a un sujet, c'est sûr qu'on va parler avec Victor. Les États-Unis qui ont intercepté un pétrolier russe, on est-tu de retour dans la guerre froide? Pascal, fais-nous un résumé de ce qui est arrivé là.
Même que le terme qu'on pourrait utiliser, c'est saisi. On est là-dedans. Ça faisait des jours et des jours qu'on suivait le pétrolier russe, en fait. Et là, on est dans la décision et même dans l'action. Donc, on a raisonné 2 pétroliers sanctionnés. Ça, c'est lié au Venezuela que les États-Unis se sont donné ce droit-là. Et c'était des opérations successives, donc menées dans l'Atlantique Nord et une autre dans les Caraïbes. On a annoncé des responsables aujourd'hui. Commandement des forces des États-Unis en Europe qui a annoncé la saisie du navire marchand qu'on appelle Bella One pour... Et on cite « Violation des sanctions américaines ». Ça, c'est une publication sur les réseaux sociaux qui nous l'a appris, OK? Et ensuite, on a poursuivi le pétrolier pendant le mois au complet. Et c'est là où on a des discussions aussi à se demander, bon, pourquoi est-ce qu'on a pris action maintenant dans ce cas-ci? Probablement qu'il y avait un genre de plan, stratégie qui était mise en place depuis beaucoup plus longtemps. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a tenté de contourner le blocus américain, selon toujours les Américains, donc qui était imposé aux navires pétroliers au large du Venezuela. C'est pour ça qu'on est dans une sanction préétablie par les États-Unis. L'armée américaine a ensuite remis le contrôle, par contre, aux autorités compétentes. Et c'est là où ça va pouvoir faire un changement dans cette saisie-là, mais c'est quand même sous couvert d'anonymat, donc on n'a pas beaucoup d'informations. On évoque peu de détails dans les opérations militaires sensibles comme celle-là, mais ce qu'on sait, c'est que ça fait beaucoup réagir. Mm-hmm. Donc, le navire, anciennement appelé Bella One, a été rebaptisé Marinera, déjà.
OK.
Pavillon russe, selon les bases de données maritimes, comme je vous disais. Et il y a un responsable américain qui a aussi confirmé que l'équipage avait peint un drapeau russe sur la coque.
On va en parler avec Victor Henriquez dans quelques instants. Sinon, plus près de chez nous, Pascal, qu'est-ce qu'on suit?
Oui, quelques petites choses en fait dans l'actualité. La population est vieillissante, ça fait longtemps qu'on en parle. On le sait, on le vit. Mais les hôpitaux de Chaudière-Appalaches sont sous pression face à cette problématique-là. On en jasera un petit peu plus tard à l'émission, mais ça crée énormément de problématiques. Hein. Des hôpitaux qui n'ont pas nécessairement les mêmes ressources qu'ailleurs au Québec, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de ces ressources-là. Mm-hmm. Bien, à part la population qui est vieillissante, bien, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, dans le contexte où on a besoin de faire rouler l'hôpital en soi, on a beaucoup de problèmes, puis ça, bien, ça augure très mal pour les prochaines années. Sinon, glissement à Rivière-Éternité, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Oui, ça fait 2 ans de ça à peu près.
Oui, 1er juillet 2023, il y avait eu plein de pluies torrentielles sur un court laps de temps et ça avait entraîné des glissements de terrain et ça avait coulé sur la route qui menait au Parc national du Fjord du Saguenay. Malheureusement, ça a causé un blessé grave et tragiquement, 2 morts.
Oui.
Et là, un peu avant la tragédie, on savait que les victimes avaient quitté les voitures pendant quelques instants pour dégager la voie. Là, c'est un geste qui était nécessaire à ce moment-là pour pouvoir poursuivre leur route. C'est ce qu'écrit le tribunal. Mais là, la SAAQ a finalement considéré qu'on allait les indemniser. Mais ça a été des années quand même très difficiles pour ces gens-là, pour les survivants aussi. Mm-hmm. La SAAQ a plaider que ce geste-là suffisait pour considérer que l'usage avait été interrompu et qu'au moment du glissement de terrain, les victimes ne faisaient pas usage d'une automobile. Fait que c'est pour ça qu'on se battait. La SAAQ disait non, ils n'étaient pas à l'intérieur de l'habitacle de la voiture, ils ne prenaient pas place, fait que c'est pas à nous de les indemniser. Puis le tribunal administratif du Québec, ben là, a rejeté l'argument. C'était une décision de 20 pages. Puis quand on analyse tous les faits, on conclut que les 6 personnes en cause ont tous été victimes d'un accident d'automobile au final.
Je sais qu'il ne faut pas mélanger les choses, mais ça me sidère toujours de savoir que la SAQ va se battre contre des survivants d'un glissement de terrain qui s'est produit sur nos routes. Mm-hmm. Et pendant ce temps-là, on dépense les yeux fermés pour un système comme Saclic qui ne fonctionne pas. Ça va toujours me sidérer. Puis je sais qu'il ne faut pas mélanger là, ces deux départements.
Non, mais je comprends très bien ta vision là-dedans. Je veux dire,
mais ça reste la même organisation.
On s'obstine pourquoi, finalement? Pour c'est des ça. Pacotés, mais c'est qui paye? Ben, c'est l'humain derrière.
Exactement, c'est l'humain. Et surtout que la SAAQ a justement des fonds déjà réservés pour indemniser les gens. Donc, je vois pas pourquoi on a livré cette bataille-là pendant 2 ans et demi avec des gens, justement, qui sont endeuillés ou qui sont gravement blessés là, de cet incident. Une petite dernière pour la route.
Oui, en nouvelle, toujours, parce qu'on est dans ce bloc-là avant de passer à Victor Henriquez, notre analyste politique qui est bien en place.
Oh oui.
Ce que je peux te dire, c'est que ça fait beaucoup jaser aussi la nouvelle configuration des sièges dans les avions. OK, là, tu te dis, oui, on va dire ça.
Ouais, on va dire, parle-moi de ça.
Mais on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, c'est comme le problème actuellement qui fait réagir sur les réseaux sociaux les voyageurs. C'est que WestJet a une nouvelle configuration pour les sièges, OK, à l'intérieur, là, celui dans lequel vous... vous asseyez, puis tout ça. Le transporteur traverse, on peut faire rire avec ça, une genre de zone de turbulence, là, parce qu'il a entrepris de réduire l'espace des jambes pour les passagers.
Hey, c'est déjà... T'es déjà pogné dans un avion, puis honnêtement, je ne l'ai pas pris si souvent que ça dans ma vie. Là.
Fait que là, on réduit la place pour les jambes, mais on installe aussi des sièges qui sont non inclinables. Et ça, pour la classe économique, donc la classe que tout le monde prend.
Ouais. Fait qu'un voyage outre-mer ou normalement...
Mais c'est dans les Boeing 737 qu'on va le faire.
Mm-hmm.
Mais tu sais, les vidéos qui sont sorties, là, je ris, mais je ris jaune, là. T'as pas de place. Puis c'est pas des gens qui sont en surpoids, c'est pas des gens qui sont en grandeur exceptionnelle. On n'est pas dans le joueur de football, mettons. Mm-hmm. Ils sont pognés, là. Puis la vidéo montre littéralement les passagers hyper serrés contre le dossier du banc. Imaginez si... Celui qui est assis à côté de toi veut aller à la salle de bain. Comment est-ce que tu passes pas? Et les prix des vols ont énormément augmenté. C'est tout ça qu'on essaie d'aller colmater du côté des compagnies. On a augmenté aussi le prix des hôtesses, des dollars, des agents de base, devrais-je dire. Les pilotes étaient en grève aussi. Mais ça avait été annoncé en septembre 2025. On avait l'intention de reconfigurer les sièges des 43 Boeing 737 pour ajouter une rangée. Mais là, on a vraiment segmenté la cabine en plusieurs catégories pour offrir un genre de nomenclature des prix. Là. Fait qu'on ventile un peu, puis on dit, ben vous autres, si vous voulez plus de place,
nous permettre d'encorder plus.
Mais il y a aussi une limite, puis je pense qu'on a atteint cette limite-là, puis WestJet ne fait pas l'unanimité.
Ouais, ça va être à suivre, parce que j'imagine que refaire une configuration, ça ne doit pas nécessairement être évident.
Non.
Donc, est-ce qu'on a fait une erreur, justement, stratégique, marketing opérationnel du côté de WestJet? Je serais porté à dire oui.
Il y a des auditeurs qui disent « Bientôt, on va être debout à tenir un barreau, puis avec trois poules.
» Comme dans le transport.
Dans le bagage au tino.
Non, j'espère qu'on ne sera pas rendu là. Non, c'est un autre auditeur aussi qui vient d'écrire ceci. On passe immédiatement au caucus avec Victor Henriquez.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
C'est Victor Henriquez qui est avec nous pour cette semaine. Antonin Iaccarini sera de retour la semaine prochaine à son poste. Elle est en vacances. Victor, comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va très bien, toi?
Ça va super bien. Mais Victor, est-ce que j'ai raison d'être inquiet? Parce que là, quand je vois que les Américains veulent mettre la main totale sur le pétrole vénézuélien, on va jusqu'à saisir un pétrolier russe. Et là, on parle de plus en plus d'acheter le Groenland. Je t'étourdis. Il se passe quoi, là? Est-ce que la semaine prochaine, la guerre froide est de retour? Là? Ça déboule donc bien cette semaine avec l'administration Trump.
Il y a du stock, on est juste le 7 janvier. J'ai juste le rappeler à tout le monde. Septième jour du mois, et j'ai l'impression que 2026, c'est déjà très lourd. Jeff, hier, je me posais la question, je me suis dit, après la discussion, je me suis dit, OK, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on s'inquiète ou pas? Qu'est-ce qui a changé vraiment? Je me suis rendu compte d'une chose. La première, c'est qu'il semblerait que les Américains ont décidé de durcir le ton en général. Mm-hmm. On va parler dans quelques instants plus précisément de ce pétrolier russe. Mais là, le document de la sécurité intérieure qui est sorti au mois de décembre est devenu un peu la bible d'action des Américains.
Oui, là que la Liberté nous disait hier, puis enseignant en histoire des Amériques depuis 30 ans au Cégep Garneau, spécialiste dans les médias, il disait « J'ai jamais vu de mon vivant les Américains être aussi hostiles envers leurs compatriotes américains. »
Ben, c'est exactement ça. Hostile envers les compatriotes, hostile envers les alliés. Je serais curieux d'entendre Luc sur ce sujet-là parce que je me suis posé la question. Tu sais, hier, tu m'as demandé est-ce que tu étais inquiet. Puis je me suis dit, crime, je suis pas assez inquiet, je pense. Puis ce que je me rends compte, c'est que cet impérialisme américain, ça fait quand même plusieurs dizaines, décennies qu'il existe envers d'autres pays. Donc, tu sais, moi, je me souviens, quand je suis né, ben, les Américains étaient au Chili. T'sais. Puis à l'époque, on nous disait, on nous l'apprenait en histoire, c'est des navires américains qui étaient à l'extérieur quand ils ont implanté la dictature. Ils étaient en Argentine, il y avait l'école de la torture au Panama. Donc, ils ont déjà, être dans les Amériques pour les Américains, puis faire de l'impérialisme, ça a toujours existé. Mais là, on dirait qu'ils le font également envers leurs alliés. Et c'est là où ça a changé. C'est qu'à un moment donné, tu avais l'impression que si tu étais du bord des Américains, ben, ils te laissaient tranquille. Mm-hmm. Et là, finalement, ils ne laissent plus personne tranquille. Mm-hmm. Et la dernière preuve, c'est cette saisie d'un pétrolier russe. Puis on se rappelle à quel point on a toujours dit « Poutine et Trump, c'est des amis. Ben, » Moi, quand j'ai un ami, je ne vais pas saisir son bateau.
Non, mais là, on en profite vraiment parce qu'on parle de ressources économiques, de ressources naturelles qui amènent tellement d'argent au bout du compte. Par contre, moi, ce qui me surprend là-dedans, puis j'avais une petite discussion avec des collègues avant d'entrer en onde. J'aimerais ça jaser avec vous, les auditeurs puis les gars. Il y a quelque chose qui se définit, par contre, d'hyper important. Dans le fait où on s'est attaqué au Venezuela, OK, dans l'angle mort, Chine et Russie, parce qu'ils faisaient leurs affaires là-bas. Mais c'était pas direct. Là, c'est direct. On dit « Bonjour, on ne tolérera pas votre pétrolier et votre affaire et vos affaires économiques. Nous sommes là et nous voulons le contrôle. » Là, tu regardes Vladimir Poutine en pleine face en faisant ça, puis tu lui dis non. Ça vient faire en sorte que les pays européens vont regarder ça. Puis pour eux, ça n'a jamais été leurs alliés puis leurs préférés, là, la Chine, la Russie. Donc, ils n'étaient pas propices à défendre ces deux pays-là. Mais Donald Trump vient jouer dans une table où on va se poser la question, finalement, c'est qui dépasse les limites? Et pour la première fois, on va se dire, ben ça sera les États-Unis. Mais habituellement, ce sont nos alliés dans cette façon moderne et occidentale de voir les choses et dans le respect du droit international, pour la plupart des fois. Il y a eu des événements quand même à considérer, mais on vient brasser les cartes. Hey, en tant que pays européen, ils vont se poser la question, crime, va-t-il falloir qu'on défende la Russie puis la Chine dans pas long si jamais les États-Unis continuent d'agir comme ça?
Oui, puis il y a deux choses qui se posent. Je trouve ça super intéressant ce que tu amènes parce que il y a cette question-là de dire est-ce qu'on est en train de tomber dans une nouvelle période de la guerre froide parce qu'on va devoir choisir un camp. Mais il faut quand même préciser aussi que ce pavillon-là, et tu le disais quand tu présentais les nouvelles, Pascal, il a été suivi pendant 21 jours. Tout le mois de décembre, on a suivi le pavillon, il a essayé de contourner le blocus américain à l'Atlantique, puis là, il a remonté vers l'Atlantique Nord, on l'avait identifié au large de l'Irlande, et là, il était proche des terres islandaises, puis il s'en allait tranquillement vers la Russie. Ultimement, on l'a saisi avant qu'il rentre dans des eaux territoriales russes, puis qu'on soit sur un terrain où est-ce qu'on ne veut pas s'engager. C'est drôle parce qu'en face de ce territoire-là, je regardais ma map du monde et je me disais, mon Dieu, en face, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Groenland en face de ce territoire-là. Mmh. Alors, c'est particulier aussi parce qu'on est aussi en train de faire des démonstrations graphiques dans tout ça.
De territoire.
En saisissant un bateau sur un territoire, on le fait dans l'Atlantique Nord. Et moi, je pense que, tu sais, je suis un gars de communication, j'adore les coms, mais j'ai toujours dit, hein, tout est communication. Les symboles sont extrêmement forts dans le monde politique. Moi, je pense qu'il y a un symbole dans la saisie d'un bateau en Atlantique Nord. C'est qu'on est en train, du côté des Américains aussi, de justifier la prise de contrôle de cet espace-là. Parce que les Américains disent « je veux le Groenland » parce que le Groenland a une frontière au nord avec la Russie puis la Chine, qui est dans le fond cette fameuse frontière arctique que le Canada défend également. Et le Groenland est un passage obligé vers mon continent. Donc, je dois le contrôler parce que je dois m'assurer de pouvoir contrôler tout ce qui se passe devant ce territoire-là.
On est en train d'amener l'argument de la sécurité nationale avec cette saisie de pétrolier-là aujourd'hui. Donc, il n'y a rien, tout est pensé
mais
dans
c'est joué
cette
sur la
stratégie-là.
Ligne.
Je ne me trompe pas, Victor?
Tous ceux qui pensent qu'on est dans l'improvisation ou dans la démonstration de force sont dans le champ. Tout ça est réfléchi, tout ça est planifié. C'est de la stratégie militaire. D'après moi, c'est un an d'organisation depuis l'arrivée de Donald Trump. Puis, il y a des gens extrêmement brillants en stratégie militaire qui sont en train de travailler là-dessus. Donc là, on a saisi ce pétrolier russe, on a saisi dans les Caraïbes. Et là, ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'à partir de maintenant, le blocus américain, vous le respectez ou on saisit vos bateaux. Puis, historiquement, ça vient nous rappeler des années très troubles, des années de guerre froide. Ça vient nous rappeler les années de la crise des missiles, par exemple. Rappelez-vous cette fameuse crise, parce qu'on a dit, on est passé à un cheveu d'une guerre mondiale à l'époque avec Kennedy.
Les Russes s'étaient établis à Cuba, justement, pour avoir un angle d'attaque sur les Américains.
C'est exactement ça. Donc, on est dans tout ça. La différence aujourd'hui, c'est que, et moi, c'est là où j'ai des inquiétudes aujourd'hui, si j'étais du côté des Européens, je m'inquiéterais énormément, c'est que pour Donald Trump, il y a des zones d'influence géographique. Donc, lui, il dit « l'Amérique, c'est à moi ». OK, gang, vous ne touchez pas l'Amérique. Donc, du Groenland à l'Alaska, de l'Arctique jusqu'au Cap Horn, ça, c'est à moi. Je fais ce que je veux là-dedans, puis je veux des alliés dans tout ça. L'Europe, on se demande c'est à qui. Et la Russie a sa zone, puis la Chine a sa zone. Donc, Taïwan... Oubliez ça, les Américains n'iront pas défendre Taïwan si on suit cette théorie-là. Pas sûr qu'ils défendraient le Japon non plus. Et du côté des Européens, là, la question se pose. Est-ce que Donald Trump va aller vouloir de son bord ou est-ce que les Européens vont finir par tomber dans le giron russe quelque part dans la vision de Donald Trump? Ou est-ce que les Européens vont créer leur propre zone d'influence aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des forces de frappe intéressantes et il y a un marché qui est très important en Europe. Donc, dans cette définition d'un nouvel ordre mondial et d'une nouvelle façon de s'organiser, on voit des grands blocs ressortir. Ce n'est pas nouveau en passant ces grands blocs-là. Les historiens pourront l'expliquer beaucoup mieux que moi. Là. C'est des blocs qui ont toujours existé, même à l'époque des empires. C'est issu de tout ça. Mais ça reste qu'on ne l'a jamais vu de façon aussi claire de la part d'un président américain.
Mais c'est fascinant. Puis tu sais, je le disais d'entrée de jeu dans la nouvelle, c'est un plan qui semble préétabli, qui semble réfléchi par rapport aussi à cette façon-là de jouer sur la ligne. Hein. Tu sais, au Venezuela, au départ, on parlait de ne pas avoir besoin de la permission du Congrès parce que ce n'est pas un acte de guerre, c'est simplement une libération d'un pays, c'est une libération de peuple. Finalement, il est allé crier haut et fort qu'il voulait le pétrole. Là, qu'est-ce qui va arriver aussi au sein même de son pays? Tu sais, on parle de tout ce qu'il y a à l'international, mais au sein des États-Unis, ça doit ruer d'un brancard là, parce qu'il n'y a pas eu l'approbation de ses pairs, il n'y a pas eu l'approbation de ceux qui devraient prendre certaines décisions. Il est en train de revamper son pays et le monde actuellement. Ça va brasser pour Donald Trump.
Ça va brasser pour Donald Trump. Puis il y a une chose qui va calmer Donald Trump, c'est les élections de mi-mandat approchées. C'est pas pour rien qu'on fait ça en début d'année en passant, hein, parce que la mémoire collective, elle est de plus en plus courte. Moi, je suis convaincu que Donald Trump a un coup à donner dans sa politique internationale pour montrer qu'il gagne. Hein, oubliez pas, Donald Trump, il gagne ou il gagne. Même quand il perd, il gagne. Dans sa théorie, à lui, là, puis écoutez les films à son sujet. Il n'y a pas de surprise avec Donald Trump.
Il n'a jamais perdu les élections de novembre 2020.
Non, il ne les a pas perdues. Il les a fait voler. À la base, là, c'est ça dans sa théorie. Et il y croit de toute façon. Là. Alors, sa théorie, c'est que de toute façon, la réalité, c'est quelque chose qui est perceptuel et que plus tu répètes ta réalité, plus elle va devenir la vérité. Donc, à la base, Donald Trump est en train d'agir aussi parce que la seule chose qui peut le calmer, c'est cette question des élections de mi-mandat. Elles viendront en novembre 2026 et on verra d'ici là quelles seront les victoires qu'il pourra mettre sur son tableau de chasse.
On a pris des dispositions dans le passé, après les guerres mondiales, après bon tout ce qui est... l'époque de la guerre froide. Puis on s'est dit, on va serrer la main sur une coupe d'entente, puis cette entente-là, il va falloir la respecter. Ce sera une entente de parole, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Hein. Il n'y a pas le grand bon Dieu de l'international qui est là en tant que juge, puis qui frappe sur son petit socle. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on est en train de voir s'effriter ou démolir le droit international en ce moment, Victor, selon toi?
On est en train, pour moi, on est en train de montrer les limites du droit international. Le droit international, il fonctionne dans une majorité de cas, sauf, puis ça je l'ai dit l'autre jour, sauf quand il est violé par des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a un droit de veto sur toute mesure coercitive qui est prise par les Nations Unies. Donc là, ce qui arrive, c'est que le droit international, celui qui le fait respecter, c'est l'ONU. Mais à l'ONU, le Conseil de sécurité, il décide les mesures qui sont prises. Dans le fond, l'Assemblée générale de l'ONU a fait des recommandations au Conseil de sécurité. Et là-dessus, il y a des membres permanents, dont les États-Unis, qui ont un peu cette espèce de droit de veto de dire, ben, même si vous me recommandez de prendre des mesures, ben, je peux ne pas les prendre.
Ouais.
Donc, ces gens-là ont comme une carte joker où est-ce que lorsque c'est eux qui sont concernés, ben, ils ne voteront pas des mesures qui vont les mettre dans l'embarras. Donc, le droit international s'applique, mais s'applique aux pays qui sont à l'extérieur de cette zone principale d'influence. Puis la planète a quand même fonctionné comme ça depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Puis je me trompe dessus par rapport à l'ONU aussi. Si on avait à condamner, par exemple, un chef d'État, un président, un dictateur, peu importe qui, prenons Vladimir Poutine, parce que ça a été dans les discussions lors de l'invasion en Ukraine. On surveillait beaucoup ce qu'on allait faire au niveau de l'ONU. Au moment où on se dit, oh non, non, lui, bon, on a des accusations contre le droit de l'homme ou je sais pas quoi, tant qu'il ne sort pas de son pays, on peut rien faire.
Et même s'il sort, il faut que quelqu'un l'arrête. Je vous donne le meilleur exemple là-dedans, c'est Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, accusé par la Cour pénale internationale de crimes de guerre, est sorti pour aller où? Est sorti pour aller aux États-Unis, en sachant que les États-Unis
ne
l'arrêteront pas.
Exactement, il est allé trois fois à la Maison-Blanche.
Tu vas là où on ne t'arrêtera pas. Puis ça, c'est quelque chose qui est arrivé extrêmement souvent, pas juste dans le cas d'Israël, dans le cas de multiples dictateurs qui sont allés s'héberger ailleurs. Je veux dire, je pense par exemple aux Duvaliers qui sont allés en France. Je pense à Jean-Bertrand Aristide qui est allé à l'extérieur aussi. Je pense à Pinochet en Angleterre. Il y a plein d'exemples dans l'histoire. Alors, vous savez, là, à ce moment-ci, les gens qui ont regardé... on a tous suivi nos cours d'histoire en se demandant est-ce qu'un jour ça va nous servir à quelque chose. Voici le moment où ça nous sert beaucoup. C'est que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qu'on vit qui se sont soit déjà déroulés ou qui partiellement ont déjà été vécus par d'autres. Et ça doit nous rassurer aussi. On a une stabilité qui vient beaucoup de nos économies. Parce que oui, on parle beaucoup en ce moment de la politique internationale sous l'angle du droit international puis de la géopolitique. Il faut quand même se rappeler que tout ça est issu d'une volonté économique. Volonté économique de contrôler le pétrole vénézuélien, plus grande réserve de pétrole non exploité au monde. D'ailleurs, on sait que le secrétaire d'État à l'énergie est allé rencontrer des gens d'affaires à Miami pour leur dire qu'ils auront accès au pétrole vénézuélien, mais que ça coûterait plusieurs dizaines de milliards de dollars et que ça prendrait plus d'une dizaine d'années à s'installer là-bas. Donc, on est dans le long terme, mais on est dans des deals business. Et je rappelle à tout le monde qui nous écoute, rappelez-vous, Donald Trump nous a dit « Je veux faire de l'Amérique, rendre l'Amérique grande à nouveau. » Et il y a cette nostalgie-là de revenir à une Amérique qui contrôle entièrement son continent.
Ben, c'est de la politique transactionnelle et non pas de la politique relationnelle. Et parlant de ça, Mark Carney s'en va faire de la transaction. Première visite d'un premier ministre canadien en Chine depuis 2017. Carney va mettre les pieds en Chine ce week-end. Qu'est-ce qu'on doit surveiller de tout ça? Parce que la Chine, c'est les grands ennemis économiques des Américains. Les Américains jouent la carte de la sécurité nationale présentement avec le Venezuela en tentant de retirer la Russie et la Chine. Est-ce que c'est judicieux? Moi, je te dirais que oui, parce qu'il faut diversifier notre économie plus que jamais. Mais en même temps, les relations vont peut-être être encore plus tendues avec les États-Unis.
Ben, ce sera de voir qu'est-ce qu'on va aller discuter. Parce que Mark Carney aille en Chine, je pense pas que Donald Trump va nécessairement apprécier, mais je pense pas que ça va l'amener à parler d'invasion du Canada, par exemple, ou du fait qu'il faut contrôler. Mais je vous donne un exemple. Mettons que, par exemple, Mark Carney décide de mettre fin au fameux tarif sur les autos chinoises. Mm-hmm. Hein, on a vu à la fin de l'année, on a appris, par exemple, que BYD est maintenant le plus grand vendeur d'autos dans le monde, qui a dépassé Tesla. BYD, une compagnie chinoise, collabore notamment avec Volkswagen. Et on sait qu'au Canada, on a des tarifs de 100% sur les autos chinoises. Ce qui fait que les autos chinoises qui sont très accessibles ailleurs ne sont pas accessibles du tout ici, puis que les Chinois ne sont pas installés. Qu'est-ce qui arriverait si Donald Trump, par exemple, si Mark Carney venait faire une entente avec les Chinois, on abolissait ces tarifs? Là, je pense que Donald Trump pourrait dire « Attendez, attention, vous laissez rentrer les Chinois chez vous, c'est une question de sécurité nationale. » Et là, on commencerait à avoir ce discours-là. Maintenant, Mark Carney fait un move extrêmement intéressant parce que ça reste que la Chine, c'est le deuxième plus grand marché pour le Canada. C'est la deuxième économie mondiale. Ne plus avoir de relations avec ce pays-là, c'était une catastrophe. On avait vu depuis 2017, hein, ça va faire quand même
9 ans.
9 ans. Ben, ça fait 8 ans et demi, 9 ans qu'on n'aurait pas eu de visite là-bas. Alors, cette visite-là, elle sera importante, elle passera des messages. Mais je ne suis pas sûr qu'on va aller très, très loin dans les ententes. Rappelez-vous, alors, à l'époque, là, ce que Justin Trudeau était allé faire la dernière fois en 2017, c'était d'essayer de négocier une entente de libre-échange avec la Chine. Et après ça, il y a eu l'arrestation de la vice-présidente de Huawei à Vancouver à la demande des Américains, l'arrestation de DeMichael, puis on avait complètement refroidi les relations. On repart de très, très, très loin pour le Canada avec la Chine. Alors, je ne suis pas inquiet pour cette première visite, mais je suis convaincu que dans les bureaux canadiens, on se prépare à agir avec beaucoup de prudence sur cette relation avec la Chine pour ne pas réveiller l'ogre Trump au sud de la frontière.
Oui, et c'est très stratégique quand c'est genre une couleuvre qui se faufile en ce moment, deux murets, sans être trop vu. En même temps, ça va faire le tour du monde, cette rencontre-là. Moi, je me demande toujours comment est-ce qu'ils vont faire pour allier entente économique, mais protéger la sécurité canadienne sur tous les pans possibles, au niveau technologique surtout. T'en penses quoi, Victor?
C'est toujours un grand défi, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se rende à une évidence aussi. Hein. Oui, on doit protéger la sécurité canadienne, on doit protéger de l'ingérence des pays étrangers, c'est tout à fait important. Mais ça fait combien d'années que nos produits viennent de Chine? On consomme des produits chinois en quantité industrielle. On laisse la Chine rentrer dans nos économies. La Chine est devenue l'usine de fabrication de la planète au complet. Et c'est toujours un peu surprenant quand on se rend compte qu'on commande du Chine, on achète du Timu, on est partout dans ces relations-là. Alors, je pense qu'il va falloir s'adapter. C'est la deuxième économie au monde. C'est peut-être même dans le futur la première puissance mondiale. Ils ont une masse critique de gens. On a des ressources qui sont intéressantes pour eux. Il faut qu'on fasse du commerce. On a souvent parlé des droits de l'homme aussi en Chine. Mais dans une politique, tu le disais, Jeff, dans une politique qui est transactionnelle plus que relationnelle, ben, il faut que tu ailles faire des deals. Parce que si tu ne fais pas des deals avec les Chinois et qu'en plus, ouais, les Américains te tiennent par la gorge, ton économie va souffrir.
Puis là, Victor, ben, souvent, ça t'amène justement à fermer les yeux sur les valeurs qui animent ton pays et tes politiques.
Oui, ça t'amène à fermer les yeux, mais on le fait depuis longtemps, ça aussi. Je veux dire, on signe des deals avec l'Arabie Saoudite, parce que les droits, ouais, de l'homme, on s'en passe un peu. On a signé des deals avec de nombreux pays qui ont des dictatures, puis on passe nos vacances à Cuba, par exemple. Puis il faut quand même se le rappeler, à Cuba, il y a une dictature qui dure depuis les années 60. Alors, c'est là où on s'en va à la plage, on trouve ça bien le fun, on amène des produits aux Cubains, mais ultimement, ces gens-là sont sous une dictature depuis 60 ans. Donc, c'est pas seulement les gouvernements, hein. On fait tous un peu ces sacrifices-là pour notre bien-être.
T'as raison.
On le vit constamment. Alors ça, là-dessus, je pense qu'il faut quand même ouvrir les yeux. Puis, vous savez, il y a un truc qui m'a frappé ce matin, c'est que Donald Trump est extrêmement honnête dans sa politique internationale. Il ne nous a pas dit « je m'en vais chercher des armes de destruction massive » comme George Bush avait fait en Irak. Il nous a dit « je m'en vais chercher le pétrole vénézuélien ». Tu parlais de la paix au Venezuela. Ça, après ça, c'est la responsabilité des Vénézuéliens de saisir l'opportunité pour mettre en place une démocratie. Mais cette honnêteté-là, elle est aussi intéressante parce qu'elle va changer nos relations. Elle va amener nos relations à être plus franches. Je pense que comme citoyens, si on veut que nos politiciens nous disent la vérité, il faut qu'on accepte aussi la vérité telle qu'elle est. On est dans une planète parce qu'on a fait beaucoup de transactions avec des gens qui ne sont pas nécessairement comme nous, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas été gagnant d'une certaine façon.
C'est un bon point. Parlant de relations franches, on a Charles Milliard en entrevue, Victor, dans à peu près une douzaine de minutes. Qui va être assez franc dans les libéraux pour dire à Mario Roy, « OK, c'est beau, mon ami, t'es pas obligé de te présenter à la course à la chefferie. Charles Milliard a 200 jeunes en arrière de lui. On va le couronner, puis on repart ça en grand du côté des libéraux. »
Moi, je vous invite à demander à Charles Millière s'il va prendre le téléphone puis il va appeler Mario Roy pour essayer de le convaincre de ne pas se lancer en course.
On
parce
pose
que
la question, Pascal,
poser
avec
la question,
plaisir.
Je la poserai la question parce que j'ai entendu les entrevues de Charles Millière. Il y a deux choses. C'est en train de bouger très, très vite chez les libéraux. Je vais faire un résumé très rapide. Hein. Alors, on a Charles Millière qui a annoncé qu'il se lançait dans la course, qui avait fini deuxième, au-dessus de 40 % du vote. Ça avait été une course très serrée, plus serrée que ce qu'on pensait. Et il s'était quand même fait un nom auprès des militants libéraux. Ce matin, sort une lettre avec 200 jeunes libéraux qui disent « Nous appuyons Charles Millière, ça prend un vent de changement, etc. etc. » Charles Millière a 46 ans, Paul Saint-Pierre-Plamondon a 48. Nouvelle génération. Et chez les libéraux, 200 jeunes, c'est important. Parce que Robert Bourassa avait déterminé à l'époque, dans la Constitution libérale, qu'un chef au Parti libéral devait être choisi avec un tiers des votes entre les mains de la jeunesse. Donc, les jeunes de moins de 25 ans au Parti libéral ont un tiers du vote au leadership. Ce qui veut dire que si tu as les jeunes de ton bord, c'est comme si tu partais avec un départ lancé. Et ça, Charles Millière, il y a les jeunes de son bord en ce moment. Et finalement, Yves Desjardins-Siciliano, qui est l'autre candidat qui a dit « Oui, je suis intéressé », ben lui, il attend d'avoir une organisation. Et là, il y a des gens qui étaient avec Pablo, qui étaient avec Carl Blackburn, qui sont peut-être en train de s'organiser. Mais là, est-ce qu'on veut vraiment que ces gens-là s'organisent après ce qui s'est passé? Est-ce que les libéraux vont vouloir ça? Je ne suis pas convaincu. Puis je pense que Yves Desjardins-Siciliano, il est un peu prudent. Il dit ben, « ça peut m'intéresser, mais je ne suis pas sûr que ça, je vais y aller ». Donc là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a beaucoup de prudence là-dessus. Guy Cormier, c'était tiède, ça refroidit de plus en plus, surtout avec la sortie des jeunes. Et là, ce qu'on se dit, c'est ben, « allez-vous vraiment niaiser avec une course pendant un mois et demi ou vous déclarez un chef pour laisser Charles Millière aller se promener au Québec? » Charles Millière commence à le réclamer de plus en plus ouvertement, d'ailleurs.
Puis il était très bon là, pour la dernière campagne, honnêtement, il s'est promené puis il s'est fait voir en région, c'en étant qu'il s'est énormément promené. Victor, est-ce que ça pourrait être mal vu de demander à M. Roy « pouit, pouit, tasse-toi, merci ».
Ben, je pense que c'est pour ça que la question se pose, mais la question se pose à savoir est-ce que vous allez essayer de le rallier, hein? Parce que ça peut être mal vu, oui, d'aller mettre une pression. Puis ça, là-dessus, il faut faire très attention. Il y a une différence entre appeler Mario Roy puis lui dire « Hey, j'aimerais ça qu'on se parle, parce que je pense que pour le parti, c'est peut-être une bonne idée qu'on discute, puis qu'on voit si on a des éléments en commun, puis de laisser M. Roy prendre sa décision, que d'arriver, puis de lui faire un appel, puis de lui faire une offre pour qu'il se retire. » Il y a un monde entre les deux. Mais moi, je pense qu'il y a une conversation qui doit s'installer chez les libéraux. Je pense qu'il y a des gens qui doivent appeler M. Roy puis dire « Hey, Mario, ça a été super que tu sois dans la campagne, mais penses-tu vraiment que c'est le bon move à faire à ce moment-ci? Puis, tu sais, si tu veux te présenter, peut-être que tes énergies devraient aller là-dessus. » Il y a finalement le fait aussi que pour être capable d'être candidat, il faut qu'il rembourse sa dette passée
ben oui.
avec des dons à 500 $. Il restait 18 000 $ à rembourser avec des dons à 500 $. Ben, ça va lui prendre 36 personnes qui donnent 500 $ au minimum
bonne
pour être
chance.
Capable de rembourser sa dette. Mais il faut payer 30 000 $ pour rentrer aussi. Donc, ça prend beaucoup de monde avec beaucoup de dons. Moi, je pense que M. Roy a intelligemment fait spinner son nom et est encore dans la discussion. Et ça, là-dessus, bravo, parce qu'en termes de com, son nom maintenant est un nom de plus en plus connu. Ça vient de bien le placer comme un candidat intéressant à la prochaine élection. Mais moi, si j'étais lui, je ferais attention à ne pas tirer l'élastique trop fort parce qu'il risque de lui briser.
Victor, on termine la chronique, le caucus Victor Henriquez là-dessus. Qui va appeler la CAQ pour leur dire qu'ils sont complètement en train de l'échapper, encore une fois, avec le troisième lien? 19 millions en forage, Victor, on cherche encore où mettre ce lien-là, alors que quand tu parles aux gens de la Rive-Nord de Québec et même aux gens qui vivent à Lévis, ils disent « Ben, nous autres, c'était à l'Est qu'on le voulait. Amenez-nous pas. » Puis là, je reprends ton expression de t'ému. Puis Pascal l'avait utilisé avec François Legault. Puis François Legault l'avait vraiment pas compris, là. Mais amenez-nous pas un troisième lien t'ému en quelque part où on le veut pas. Qui va convaincre la CAQ que ça a plus de sens où est-ce qu'ils s'en vont, là?
Les électeurs. Les électeurs de Québec sont ceux qui doivent décider. Puis vous savez, moi, j'ai toujours fait super attention comme gars de Montréal à pas venir me prononcer sur le troisième lien parce que je connais pas assez la géographie. J'habite pas à Québec. Je vis pas le trafic qui vit sur la Rive-Nord. Puis j'aime pas ça quand les gens se mêlent de ce qui les regarde pas. Mais il y a deux choses, par exemple. D'un côté, il y a des spécialistes. Alors, il faut les écouter, les experts. La deuxième, c'est qu'il faut être logique puis il y a des coûts également. Là, je comprends pas comment... Ce qu'on est en train de nous dire, dans le fond, c'est qu'on n'a pas trouvé le bon tracé. Puis vous savez, ce que je me demande, c'est il y avait un tracé qui était celui d'Éric Duhaime, qui était vraiment à l'Est. Je me demande si on va pas finir avec ce tracé-là à un moment donné, qui était celui qui passait proche de l'île d'Orléans. Parce qu'il faut se poser la question. M. Legault a ramené ce projet-là en disant « Il y a une question de sécurité pour le Québec de ne pas avoir de lien supplémentaire à l'Est. Si on a un problème avec le pont de Québec ou avec le pont Pierre-Laporte, on se retrouve avec un isolement complet de cette région du Québec jusqu'au pont La Violette. Et même plus loin, plus le pont La Violette, on s'entend qu'il n'est pas parfait non plus. Alors, moi, je trouvais ça intéressant, cette perspective-là. Mais cette perspective-là, il faut y répondre. Je ne suis pas sûr qu'avec ce qu'on est en train de faire comme forage, on y répond à ce moment-ci. Ça va prendre des spécialistes, ça va prendre d'identifier le besoin, ça va prendre des électeurs qui décident de choisir le parti qui va le faire, pas pour gagner des élections, mais parce qu'ils ont les bons arguments puis ils ont le bon plan pour le réaliser finalement.
C'est très bien dit, Victor, même si tu restes à Montréal. Non, je te taquine. Non, mais tu sais, pour faire une histoire courte, les gens le veulent vraiment justement plus à l'Est pour créer un périphérique comme on voit dans les grandes villes là, à travers le monde. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on comprend pas pourquoi la CAQ met autant d'efforts à tenter de créer un troisième lien près des deux ponts actuels puis qui débouche à des endroits déjà congestionnés à Québec. Là.
Parce que sinon, Jeff, ils vont être obligés de dire que les conservateurs avaient raison. Et ça, ouais. La région de Québec, c'est peut-être pas une bonne idée pour la CAQ de dire que les conservateurs avaient raison quand tu veux gagner des comtés à Lévis, par exemple.
Tu m'embarques voilà. Dans le cynisme politique, Victor Henriquez. Mais je peux pas croire qu'une décision aussi importante va jouer sur des enjeux politiques et partisans. Mais bon, c'est moi et ma vertu.
Victor, pour vivre dans le rêve.
Exactement. Victor, on se parle demain?
Ouais, à demain.
Salut, à demain. Victor Henriquez, que vous entendez dans le caucus en remplacement d'Antonine Niacarini. L'excellent Victor Henriquez, avec qui on adore discuter. Pascal, on se prépare à recevoir. Ça va être au téléphone. Charles Milliard. Il y a un petit 9-10 minutes pour nous. On va jaser avec lui aux alentours de 12h45. C'est sûr que je lui pose la question s'il va lâcher un coup de fil à Mario Roy. Moi, toi, bref, quand le momentum sera là, on va lui poser la question.
La question Henriquez.
Exactement. Donc, restez avec nous à l'émission On en jase. On va parler avec Charles Milliard. Puis en attendant, Charles Milliard, on fera un petit tour d'actualité et surtout d'actualité sportive. Tiens, on n'en a pas fait encore. Le Canadien de Montréal contre les Flames de Calgary ce soir au Centre Bell. Hey, Seigneur Pascal, tu dois être énervé.
Ah ouais,
As-tu ton chandail pas loin?
Oui, j'ai ça, moi, oui.
C'est ce que je
pensais. Toujours proche.
On parle de ceci après cette courte pause à l'émission d'Angers sur Boulevard 101.